Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Médias ce soir avec une longue partie de cette émission consacrée à Télérama, le magazine télé, l'hebdo télé qui se porte bien et qui réfléchit également à sa mue numérique. Catherine Sueur, la présidente du directoire de Télérama, est mon invitée ce soir. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes en direct à Radio France ce soir, un groupe, une maison que vous connaissez bien.
Je suis très contente d'être à la maison de la radio ce soir, effectivement une maison pour laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans et qui continue à avancer et à porter haut les couleurs du service public de la radio.
Vous étiez, c'était quel titre exact de ce poste de directrice ?
J'étais directrice générale déléguée auprès de Jean Lucquès, puis de Mathieu Gallet.
À la direction donc de Radio France. Avec vous, nous parlerons de Télérama, de sa santé financière, de vos projets numériques, de votre lectorat, plutôt vieillissant, mais des idées justement pour le rajeunir, à coup de nouvelles technologies, mais aussi, ou plutôt sans algorithmes. Et puis nous évoquerons le futur de la critique culturelle et la prescription, sujets centraux pour France Culture, mais aussi pour Télérama. À la tête des magazines du groupe Le Monde, vous vous occupez également de l'Obs, de Courrier International ou encore de M Magazine du Monde. Et de tout cela, nous parlerons également. Vous serez interrogé ce soir par Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfez de France Culture. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de Soft Power numérique ce soir également. Zoé Sfez, vous recevez ce soir donc Félix Tréguer pour son livre L'Utopie déchue.
Avec effectivement un petit peu de retard, L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet. C'est un livre attendu pour Félix Tréguer qui est un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, une association que l'on connaît bien, créée en 2008 mais je crois formalisée en 2013 et qui est, disons, sur le front de nombreux débats qui aujourd'hui sont au sommet de l'opinion publique, comme notamment la question de la reconnaissance faciale. On en parlera évidemment aussi avec lui.
Dans l'actualité de Soft Power, numérique encore, mais aussi politique culturelle. Nous reviendrons sur les chiffres de Disney Plus et de YouTube, sur les abonnements numériques du Wall Street Journal et du New York Times qui se portent plus que bien, ou encore sur le festival Longueur d'onde, le projet Macron pour la francophonie à Villers-Cotterêts, le Louvre qui va ouvrir pendant trois nuits pour fêter Léonard de Vinci, ceci gratuitement. Et enfin les Césars en tension, on en parlait il y a un instant, tension paritaire. Et puis je rendrai hommage à ouverture de cette émission à David Kessler, ancien directeur de France Culture, disparu cette semaine. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. Émission réalisée ce soir par Lionel Quentin, avec en régie U2, U2, Diego Hack Lopez. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet, avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez la suivre, cette émission, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn et bien sûr en podcast comme chaque semaine en vous abonnant gratuitement à ce podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Voilà, 18h14 en direct sur France Culture, c'est Soft Power jusqu'à 19h30. Vous avez le programme, c'est parti. Je commence cette émission par un hommage collectif, mais aussi personnel. Nous avons appris mardi la disparition soudaine, inattendue, de David Kessler, ancien directeur de France Culture. Ce n'est pas le lieu ici de raconter l'homme et sa générosité, sa complexité aussi. Cet étrange enchevêtrement de traits, de caractère et d'attitude avec les autres qui font la vie d'un être qui a profondément marqué cette chaîne France Culture et la plupart de ceux qui la font aujourd'hui. Chacun de nous rendra hommage à l'homme, à sa façon ou intimement dans son cœur, et cela doit d'une certaine manière rester privé. Ce que l'on peut faire en revanche à l'antenne dans cette émission, c'est revenir sur le parcours public de David Kessler et ce qui fut finalement son œuvre. Ce n'était pas un journaliste, ni même véritablement un intellectuel. Il n'a pas ou peu écrit, même s'il en a eu le désir. Il n'a pas fait de la radio, ni du cinéma, ni de la télévision. Il a toujours été de l'autre côté des écrans, celui qui permet au contenu culturel et audiovisuel d'exister et de faire en sorte qu'il soit les moins mauvais possibles. Normalien, agrégé de philosophie, énarque, il fut un juriste engagé au Conseil d'État et on a pu oublier qu'il s'était opposé, par exemple, à l'époque, comme commissaire du gouvernement, à une laïcité trop rigide et à l'interdiction du foulard à l'école. Pour lui, la laïcité n'interdit pas l'expression des différences. Au contraire, elle les tolère toutes. Pour comprendre ses idées, il faut rappeler que David Kessler était une figure active du judaïsme libéral français. Un professeur de philosophie qui toujours tentait de défendre une exigence du discours et une exigence de l'argumentation, toujours, toujours la tolérance. Comme conseiller culturel et communication du Premier ministre Lionel Jospin à Matignon, comme conseiller culturel du maire de Paris Bertrand Delanoë, puis conseiller culture du président de la République François Hollande, David Kessler a enchaîné les postes politico-culturels à gauche, sans affectation ni sectarisme, grand serviteur de l'État qui se méfie des égaux et des divas, fort nombreux, il est vrai, dans ce petit monde de la culture et de l'audiovisuel parisien. De là, un humour à la Saint-Simon, une ironie aussi à la House of Cards. Je crois que David Kessler n'était pas dupe. Il détestait les rapports de force et il savait mieux que quiconque le poids de la comédie, l'ampleur de la vanité, les jeux incertains des nominations et des décorations dans ce microcosme artistico-communicant parisien. Alors, il en riait. Si on tente de tracer une ligne pour expliquer sa pensée, on peut dire que David Kessler incarnait le modèle culturel français dans son idéalisme. Le cinéma américain devait financer la création française, la télévision finançait le cinéma, la France menait un combat pour la diversité. C'était sa mission. Et pourtant, Kessler avait compris avant les autres que ce modèle avait atteint ses limites, que notre village audiovisuel gaulois risquait de s'isoler, que la transition numérique imposait aussi une transition de notre politique culturelle. L'autre idée centrale que je retiens de David Kessler, c'est le refus de toute séparation étanche, stricte, entre le secteur public et le secteur privé. Après avoir dirigé le Centre national du cinéma, avoir dirigé France 2 ou le CSA, il est parti dans le privé, aux Inrock, au Huffington Post ou chez l'opérateur Orange, non pas pour pantoufler comme tant d'énarques, mais pour tenter de comprendre l'évolution des industries culturelles du côté des acteurs privés. De là, une pensée fluide et assez peu figée sur l'économie créative, le contraire même de bien des professionnels du secteur qui ne se remettent jamais en question. David Kessler le faisait peut-être trop. Tous les 3-4 ans, il changeait de poste, il changeait de vie. Cette succession de carrières, cette boulimie professionnelle cachait sans doute des lassitudes et des failles. Il a peut-être empêché de transformer en profondeur les entreprises publiques comme privées qu'il a dirigées. C'est qu'il pensait au temps long, aux fondations du système culturel français, plus qu'à ses épiphénomènes. Dans son exposition incontournable « Faire son temps » actuellement au Centre Pompidou, l'artiste Christian Boltanski évoque le petit trait qui sépare les dates de naissance et de mort d'un homme. 1959-2020 par exemple, pour David Kessler. Ce petit trait entre ces deux dates, ce fut la vie de Kessler. Si longue et si courte, multiple aussi jusque dans les affections et les abîmes, imparfaite sans doute, mais qui représente également une œuvre à sa façon. Celle qui demeure dans le souvenir de ses étudiants, de ses collaborateurs, des élus ou des professionnels de la culture et de la communication, si nombreux à le regretter aujourd'hui. Et qui savent qu'il était du côté du bien. Un mot personnel pour finir. C'est David Kessler qui, à la tête de France Culture, avait voulu dédier une émission aux industries culturelles, aux médias, au numérique. Masse critique devenue Soft Power, que j'anime depuis presque 15 ans. Soft Power est donc aussi l'un de ses héritages, une partie de son œuvre en quelque sorte. Au nom de France Culture et de toutes ses équipes, nous voulions rendre hommage ce soir à David Kessler, dont les funérailles auront lieu mardi à 15h au cimetière du Montparnasse à Paris. David Kessler au micro de Jean Lebrun en janvier 2006 à propos de France Culture en réponse aux questions d'auditeurs en public, une archive INA.
Dans ce qui a été dit, ça demanderait des heures, alors je vais être très bref, au-delà des remarques, ce que j'entends dans ce que dit monsieur et qui me paraît effectivement, c'est surprenez-nous, c'est-à-dire ne tombez pas dans effectivement ce qu'on entend d'habitude et partout. Et donc ça, je crois que c'est une exigence tout à fait légitime des auditeurs. Après que on fasse intervenir sur l'antenne des gens qui viennent d'ailleurs, alors vous dites plutôt Charlie Hebdo que Le Monde, on pourrait trouver d'autres choses d'ailleurs. Mais en tout cas, surprenez-nous et ça, ça me paraît important. De façon générale et très rapidement, je dirais que je crois qu'on doit avoir deux préoccupations. La première, c'est que nos émissions soient repérables. C'est-à-dire que les auditeurs puissent savoir à un moment donné ce qu'il y a sur l'antenne. Madame dit, faites-nous de la fiction radiophonique et des pièces radiophoniques. Nous en avons, donc ça veut dire qu'elles sont peut-être pas suffisamment repérables. Puis la deuxième chose, il faut que France Culture reste absolument un espace de débat, c'est-à-dire un espace pluriel. Et ça, c'est un point essentiel. Je crois qu'il y a une grande diversité. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après tout, je suis arrivé assez récemment, donc je découvre aussi la radio et je découvre d'ailleurs les visages derrière les voix que j'entendais. Et ce qui me frappe, c'est la grande diversité des gens qui font la radio. Ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi qu'il y ait une diversité des thèmes étudiés et une pluralité des approches. Alors, toutes ces exigences-là, ben, il faut les faire tenir dans une grille qui est très compacte. C'est-à-dire, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut paraître énorme, mais on s'aperçoit assez vite que c'est peu quand on a des nouveaux projets. On se dit, mais où les mettre ? Et donc, une radio, ça doit être à la fois une grande stabilité et en même temps un souci perpétuel de changement.
France Culture, 18h22 en direct, l'actualité des industries culturelles, de la politique culturelle et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Manuel Paquette de l'Express, Zoïs Fest de France Culture et nos invités, Catherine Sueur et Félix Tréguer. Plusieurs sujets ce soir. On commence avec vous, Manuel Paquette, avec les chiffres de Disney+. Disney+, c'est une sorte de Netflix qui est lancé par Disney et de YouTube qui ont été rendus publics cette semaine.
Oui, alors déjà Disney+, lancé il y a maintenant 3 mois aux États-Unis et dans d'autres pays, notamment la Nouvelle-Zélande, donc lancement le 12 novembre, et qui là vient de communiquer ses premiers chiffres en début d'année, donc 28 millions d'abonnés en l'espace de 3 mois. Alors c'est un chiffre d'autant plus remarquable que Netflix, comme vous le disiez, a été lancé en 2007 et a dû mettre 5 ans pour atteindre ce chiffre, donc en 2012. Donc on voit ce que Disney a réussi à obtenir en 3 mois, ce que Netflix a mis 5 ans à faire, avant le lancement européen prévu dans quelques mois, donc d'ici la fin mars. Alors ce chiffre est quand même à nuancer, parce que sur les 28,6 millions d'abonnés que compte aujourd'hui Disney+, il y a à peu près 20% de gens qui ne sont pas abonnés directement, mais qui passent par l'opérateur de télécommunication Verizon, qui propose un accès à Disney+, dans certains packages dont d'accès à Internet très haut débit, Internet fixe et mobile. À côté de ça, le Disney a également annoncé des chiffres sur Hulu, donc c'est une plateforme qui est juste pour l'instant aux États-Unis, mais qui a vocation à s'internationaliser justement pour être en concurrence directe avec Netflix, puisque Hulu, c'est plutôt des programmes destinés aux adultes. Donc Hulu a aujourd'hui 30,7 millions d'abonnés, donc là aussi c'est un chiffre assez important, même si la plateforme a été lancée il y a quelques temps déjà. Et puis ESPN+, qui là est la troisième plateforme de Disney, qui concerne uniquement le sport en live. Là, il y a 6,6 millions d'abonnés. Alors Disney fait attention, puisque ce type d'activité peut venir directement concurrencer ses chaînes ESPN, ses chaînes en flux. Donc il n'y a pas tous les grands sports aujourd'hui sur ESPN+. C'est plutôt des sports de deuxième division ou des sports universitaires. Mais les grandes ligues américaines restent en diffusion sur la télévision traditionnelle.
S'agissant maintenant de YouTube.
Oui, alors pour la première fois, YouTube a décidé de communiquer sur ses chiffres.
Oui, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent.
Voilà, exactement. Donc pour rappel, la société a été rachetée en 2006 par Google pour 1,6 milliard de dollars. À l'époque, tout le monde considérait que cette somme était incroyable et que YouTube était survendu, en l'occurrence à Google. Aujourd'hui, en chiffre d'affaires, la société fait 15,1 milliards de dollars, donc c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires total de Google. Et en plus de ces 15 milliards, il faut rajouter 3 milliards sur des services payants. Donc dedans, on trouve 2 millions d'abonnés à YouTube TV, qui est aujourd'hui une plateforme de diffusion de chaînes de télévision qui sont d'habitude payantes, et là accessible directement en OTT, donc sur Internet, et 20 millions d'abonnés à YouTube Music, donc sans publicité, qui est le concurrent direct d'Apple Music et de Spotify, donc c'est moins que ces deux concurrents. Mais aujourd'hui, on voit que YouTube représente un aspect non négligeable et un chiffre d'affaires non négligeable par rapport à Google. Si c'était une régie publicitaire sur Internet, ça serait la troisième, donc après Google et Facebook.
Catherine Sieur, vous êtes présidente du directeur de Télérama. Les chiffres, notamment de Disney+, pour quelqu'un qui s'occupe de télévision, ça vous intéresse?
C'est assez impressionnant de voir effectivement cette évolution des usages et de voir que, certes, vous le disiez, Disney+ a mis 5 ans, a fait en 3 mois ce que Netflix a fait en 5 ans, mais ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, les usages ont considérablement évolué et les utilisateurs ont pris beaucoup plus l'habitude de regarder des programmes sur les plateformes. Après, pour Télérama, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça fait autant de programmes à chroniquer et à recommander pour nos lecteurs. C'est aussi, je pense, une nouvelle importante et on va voir ce qui va se passer sur la production cinématographique et comment effectivement Netflix et Disney+ vont participer au financement de la production cinéma puisque je pense qu'ils vont avoir à appliquer les obligations qui s'appliquent en France aux chaînes de télé, qu'elles soient publiques ou privées. Du coup, c'est tout un écosystème qui est en train d'évoluer et ça, c'est très intéressant, je pense.
Autre sujet dans l'actualité, Zoé Sfez, on a parlé dans ce journal des Oscars, mais les Césars connaissent aussi leur tension, en tout cas leur tension paritaire.
Oui, alors, tension paritaire aussi hein, pour les Césars, parce que cette année, après une année 2019 très post-MeToo, où il y avait eu une grande attention portée au nombre de femmes nommées dans la catégorie des réalisateurs, à la diversité au niveau des acteurs et aussi au niveau des choix techniques, cette année c'est assez catastrophique aux Césars. On a une actrice afro-américaine nommée sur plus de 20 nominations. On n'a pas une femme réalisatrice, donc ça pose des vraies questions. C'est-à-dire qu'il y a des efforts et puis après il y a des espèces de retombées. Grosse polémique aussi en France. Il y a 2 semaines, quand les nominations pour les Césars ont été dévoilées, avec 2 films qui ont 12 nominations, le film de Ladjili, Les Misérables, mais aussi le film J'accuse de Roman Polanski. 12 nominations, même pour ses films les plus acclamés, et même bien avant le début de la polémique et les nouvelles accusations de viol qui ont été portées contre lui. Roman Polanski n'avait jamais bénéficié d'autant de nominations, il risque de rafler la mise. Il est suivi de près, certes, et c'est toute l'ambiguïté des espèces de messages envoyé par ce choix de nomination, par le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, parmi les favoris, avec évidemment nommé double nomination dans la catégorie meilleure actrice pour les 2 interprètes du film, Adèle Haenel, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement du MeToo français, mais qui a fait des révélations très importantes dans Mediapart, et la jeune femme qui joue avec elle, qui s'appelle Noémie Merlant. On a aussi, grâce à Dieu, un film très important de François Ozon sur la question des abus sexuels dans l'Église, qui fait partie des favoris, mais il y a eu beaucoup de grands absents, notamment Sibyl, le film de Justine Triet avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, qui ne sont absolument pas présents. C'est l'amour de Claire Burger. Donc on est aussi sur des oubliés qui ont surpris pas mal les gens. Et évidemment, une vraie polémique autour du nom de nomination sur le film de Roman Polanski et un président des Césars, Alain Terzian, qui, lorsqu'il a dû répondre à des questions,
notamment ce matin dans le JDD.
Alors, pas ce matin, mais la semaine dernière, quand on l'interrogeait sur Roman Polanski, il disait « Les Césars ne sont pas une instance qui doit avoir des positions morales ». C'est une réaction qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, dans le sens où finalement, elle se lavait les mains un petit peu de cette question-là. Et finalement, dans une interview qu'il donne au JDD aujourd'hui, il fait une forme de machine arrière. Il annonce dans cette interview donc donnée au JDD eh bien, une révolution culturelle au sein de l'Académie des Césars. Parce qu'en réalité, cette politique de nomination et cette problématique Polanski, elle semble pouvoir s'expliquer. Et ça, le collectif 50-50 qui a été créé en 2017 l'avait pointé du doigt. Elle est probablement liée à tout simplement la manière dont l'Académie des Césars est structurée. Pourquoi? Eh bien parce que l'Assemblée Générale de l'Académie des Césars ne compte que 17% de femmes. C'est 8 femmes pour 47 membres. Son conseil d'administration compte 27% de femmes. Et il n'y a que 35% de femmes sur les 4000 et quelques membres de l'Académie des Césars qui sont à jour de leur cotisation. Aussi, mention très importante, la moitié des membres de cette académie ont plus de 70 ans, ce qui explique probablement la manière dont Alain Terzian le caractérise lui-même. Nous sommes dans une situation anachronique sur la manière dont on vote pour les Césars. Il indique donc à Alain Terzian vouloir opérer une révolution culturelle. Il veut ouvrir à plus de 700 ou 800 femmes le collège des votants pour atteindre donc une parité parfaite d'ici l'année prochaine. Alors comment le faire? La question, c'est toute la question. Il faut pousser les femmes éligibles à l'Académie des Césars César à postuler, ce qu'aujourd'hui concrètement elles ne font pas. On sait que c'est un problème qui touche les femmes dans quasiment tous les secteurs, mais surtout en assouplissant les conditions. Par exemple, au lieu d'avoir travaillé sur 2 films en 3 ans, aujourd'hui on pourrait avoir des femmes qui ont travaillé sur 2 films en 5 ans pour intégrer notamment les femmes qui sont en début de carrière et qui pourraient avoir un enfant. Il promet aussi et surtout que fin 2020 la parité sera complète au conseil d'administration. Il explique qu'effectivement il a fallu attendre la pression des critiques mais aussi des sponsors de cette cérémonie, notamment Canal+. Il reconnaît, je cite, qu'on aurait pu se bouger plus tôt. En revanche, aux différentes critiques qui émanent notamment du collectif 50-50 mais aussi de la chercheuse Iris Bray qui a publié un essai il y a quelques jours sur le female gaze, le regard féminin au cinéma, et qui l'accuse concrètement d'être une institution opaque et autocratique, elle intervient, tente de se défendre toujours dans cette interview au JDD. Il dit qu'il ne prend part à aucune des commissions des Césars, qu'il ne choisit pas les remettants ou les remettantes, qu'il en discute simplement avec le conseil d'administration. Mais en fait, on en revient à la même question. On espère que les choses auront changé quand ce fameux conseil d'administration, lui aussi, aura changé.
Voilà, cette interview est à lire dans le JDD ce dimanche. Une réaction, Catherine Sieur, sur les Césars.
Je pense que Zoé Sfez a tout dit. C'est effectivement une institution qui doit évoluer. Et finalement, ce qui s'est passé cette année va les forcer à bouger. C'est une très très bonne nouvelle, je pense, parce qu'effectivement, c'est pas normal qu'on ait une institution comme ça qui a une importance importante pour le cinéma français, pour les Français, qui récompense les meilleurs films, les meilleurs acteurs, les meilleures actrices, et qui soit à ce point déconnecté, finalement, de la représentativité du secteur du cinéma français. Donc rendez-vous l'an prochain et on verra ce qui se passera.
Le coronavirus ne s'attrape pas par email, ça on le sait, mais il affecte quand même, Emmanuel Paquette, le Mobile World Congress à Barcelone.
Et alors, c'est le plus grand salon au monde de l'industrie de la téléphonie et il est particulièrement attendu cette année avec l'arrivée de la 5G dans plusieurs pays, notamment en Europe. Et effectivement, plusieurs grands sponsors et plusieurs grandes marques ont déjà décidé de ne pas venir et d'annuler leur participation. Le dernier en date, donc le Suédois Ericsson, donc l'équipementier de téléphonie mobile, ne souhaite pas envoyer de personnel là-bas pour pas qu'il soit exposé éventuellement au virus, puisqu'il y a une forte délégation chinoise qui vient tous les ans là-bas, notamment représentant des fabricants de téléphones mobiles du type Huawei, Xiaomi, Vivo et d'autres, et qui aujourd'hui, en fait, peut particulièrement exposer toutes les personnes qui vont venir. Donc en gros, c'est plus de 100 000 personnes chaque année qui viennent se rendre à Barcelone pour ce salon. ZTE, donc l'équipementier chinois, a dit qu'il viendrait, mais en délégation amoindrie, avec une conférence de presse qui a priori serait annulée. Et puis Nvidia, donc c'est le fabricant de cartes graphiques, qui a annoncé aujourd'hui qu'il ne viendrait pas, qu'il annulerait sa participation au MWC, et de là à penser que dans les jours qui viennent, d'autres grandes annulations puissent mettre un terme à ce congrès, c'est une possibilité, même si pour l'heure, les grandes marques du type Samsung et autres ont continué de dire qu'elles viendraient, même avec des effectifs un peu moindres, mais qu'ils seraient tout de même présents à cette grande messe.
Politique culturelle maintenant, avec Villers-Cotterêts, c'est le chantier d'Emmanuel Macron. Quand on parle de la politique culturelle d'Emmanuel Macron, au fond, on a 3 grandes idées. Le pass culture, dont on reparlera et qui connaît quelques difficultés. Les microfolies, qui était le sujet de cette émission la semaine dernière, lancée par Didier Fusillier et dont le président de la République a annoncé la généralisation, en tout cas plus de 1000 microfolies à travers le pays aussi à l'international. Et puis Villers-Cotterêts, un chantier à 200 millions d'euros. Ce château de l'Aisne où le chef de l'État souhaite, Zoé Sfez, bâtir les bases d'un haut lieu de la francophonie.
Oui, alors on en a peu parlé dans cette émission et même de manière générale parce que c'est un projet qui est encore relativement flou, la preuve. En fait, c'est dès janvier 2018 que Emmanuel Macron se rend dans ce château de Villers-Cotterêts. Donc Villers-Cotterêts, rappelons-le, c'est ce château qui est à 70 km de Paris, c'est en Picardie, ce sont les terres natales d'Emmanuel Macron. Il a été construit au XVIe siècle par François Ier et c'est là qu'il a signé, François Ier, la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts qui stipule, qui explique, c'est du texte législatif qui est toujours en vigueur en France aujourd'hui, eh bien que c'est le français qui a la primauté sur les textes, les documents officiels du royaume. Donc on va vers cette généralisation de la langue française telle qu'on la connaît. Et donc Emmanuel Macron, janvier 2018, il a envie, je pense, à la fois de lancer un grand projet culturel qui soit proche de lui, la Picardie, et puis qui montre aussi qu'il n'est pas uniquement parisien. Et donc il décide que ce château qui est en très mauvais état deviendra un lieu fort, un laboratoire, je cite, de la francophonie. Il faut faire de ce château, je cite, un grand laboratoire de la francophonie, un lieu d'exposition, de rencontres, de recherche, de pédagogie, de résidence d'artistes et de chercheurs, de travail, de création, d'écriture et de spectacle. Tout ça autour de la langue française, mais on n'est pas sur un projet extrêmement défini. En début d'année 2019, Philippe Bellaval, le directeur du centre... En 2019, c'était Philippe Bellaval qui s'était rendu sur les lieux, qui avait annoncé que le chantier allait véritablement prendre corps, tout en expliquant que ce château allait très mal, c'est l'un des plus grands scandales patrimoniaux de notre époque. Et là, il avait effectivement sorti ce chiffre de 200 millions d'euros de rénovation, c'est un chiffre très 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 important, en expliquant que le budget 2019, le budget 2020 et le Centre des Monuments Nationaux débloqueraient 100 millions d'euros, restaient 80 à 110 millions d'euros à trouver, et théoriquement, les travaux devaient commencer en janvier 2020, finalement ils commenceront en mars. Il y a encore de vraies questions en fait sur ce projet. Bon, d'abord, la nature scientifique du projet n'est pas tout à fait définie. De facto, on ne sait pas non plus en termes de gestion administrative de quoi il s'agit. Est-ce que ça relève, c'est un établissement public, est-ce que c'est un EPIC, est-ce que ça dépend directement du ministère de la Culture? Vu qu'on est dans une phase de travaux de dépollution, on n'en est visiblement pas encore là. Il y a aussi une question de fond. Est-ce que c'est un bon lieu, Villers-Cotterêts, à 70 km de Paris, pour avoir un centre de la francophonie qui soit d'une ampleur réelle? Quand on parle de francophonie, ça veut dire lien avec l'étranger, ça veut dire que il faut
Multitude d'organisations,
ça veut dire gens qui puissent partir et revenir assez vite. Alors certes, 70 km, c'est pas très loin, mais on sait que c'est toujours un petit peu complexe. Et puis il y a le choix de la ville. Villers-Cotterêts, c'est une ville effectivement patrimoine très important. On pense à Alexandre Dumas qui avait aussi son château là-bas. Mais c'est une ville dont le maire a été longtemps Front National. Alors aujourd'hui, il est Rassemblement National et c'est un maire qui se dit ouvert. Mais c'est quand même particulier d'avoir un centre de la francophonie théoriquement très ouvert dans une municipalité qui va rester probablement Rassemblement National. Et puis reste la question de l'argent. Ces millions d'euros manquants, pour le moment, on les a pas. On sait qu'il y a plusieurs mécènes. Et parmi les seuls mécènes à monter, eh bien, il y a les Émirats Arabes Unis. Et donc ce mécénat, on sait qu'ils vont participer. On sait pas à quelle hauteur. Vraisemblablement, ce serait assez important. 20 à 30% du budget. Donc on peut aussi, là encore, se poser la question. Est-ce que c'est vraiment aux Émirats Arabes Unis de financer le grand projet du quinquennat dédié à la francophonie? Question.
Politique culturelle encore, avec l'annonce par le président du Louvre ce matin, qui a confirmé 3 jours d'ouverture exceptionnelle pour l'exposition Léonard de Vinci du 21 au 23 février, donc un peu avant la fermeture de cette exposition qui est blockbuster, très fréquentée. L'ouverture aura lieu 24 heures sur 24, donc toute la nuit, c'est tout à fait exceptionnel, ce sera gratuit par ailleurs. Il faudra toutefois réserver et ça se fait à partir de ce mardi à midi précis sur le site louvre.fr. Le festival Longueur d'onde...
Bon, on avait envie d'en parler. C'est un festival de radio, de son, et c'est un festival très intéressant. On en parle parce qu'il se termine aujourd'hui, dimanche. C'est un festival qui a 17 ans désormais, qui est à Brest, qui a été fondé justement au début par des passionnés de radio. C'était un petit festival, mais qui a été assez vite soutenu et par Télérama et par France Culture et par différents acteurs tels la SACD ou la SCAM, et qui a en fait au fur et à mesure du temps pris de plus en plus d'importance. Et c'est très intéressant parce que c'est un lieu de bouillonnement qui rend très bien compte de la manière dont le son et l'audio est vraiment une forme de futur, et vous le savez bien, vous, chez Télérama, Catherine Sueur. Et là, d'ailleurs, les prix qui ont été remis hier soir sont assez à l'image de ce bouillonnement. Il y a eu beaucoup de réflexions autour aussi de la place de Radio France dans la création radiophonique, de la place du métier de réalisateur. Lionel Quentin, notre réalisateur, faisait partie des gens qui ont parlé de leur métier. Sur les prix qui ont été remis, c'est assez intéressant. Il y a eu 9 projets qui concouraient dans la catégorie du prix SACD. Donc ça, c'est un prix qui a été créé par le festival, avec le festival, qui a été remis à différents podcasts différents. Donc ça, c'est intéressant, des acteurs qui n'existaient pas et qui sont devenus de plus en plus importants, et notamment sur le prix Longueur d'onde de la création documentaire. On a un documentaire, une œuvre dont on peut dire qu'elle dérange, en tout cas ce qu'a voulu le jury, qui s'appelle Tout de suite les grands mots, et qui raconte les deux perspectives, celle d'un homme et celle d'une femme, sur une même rencontre. Et à travers cette question-là, on touche à la question évidemment du consentement. Ce qui est intéressant, c'est que l'autrice de ce documentaire, Nora Benaroche-Orsoni, elle a été formée par un collectif qui s'appelle Transmission, qui a à peine un an, qui va ouvrir un lieu à Aubervilliers, qui se définit comme une école libre de la narration audio. Tout ça pour dire que Longueur d'onde, il faut regarder, continuer à regarder ce type de palmarès et encourager, parce que c'est vraiment l'un des lieux où l'on peut regarder aussi aujourd'hui la vivacité et la diversité de l'audio, des contenus radio tels qu'ils existent et continuent de se développer.
Une courte réaction, Catherine Sueur.
C'est un formidable festival, je pense, hein, vraiment, qui existe depuis très longtemps et qui, en plus, a su s'adapter au fur et à mesure et qui, désormais, traite le podcast natif, comme Télérama, d'ailleurs.
Comme Télérama, ça, on va en parler avec vous parce que vous avez d'un coup un espèce de champ nouveau qui s'ouvre plus que jamais. Je sais que vous manquez même de mains pour essayer d'écouter tout ce qui se passe.
Et d'oreilles, en l'occurrence.
Et d'oreilles, effectivement. Non, mais le podcast natif, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'évolution des usages, là encore. Et je pense que Longueur d'onde, c'est un festival qui vraiment récompense cette nouvelle création et c'est extrêmement intéressant. On continuera d'être partenaire, bien sûr.
Donc pour terminer cette actualité de la semaine, Emmanuel Paquette, on a pu lire cette semaine les résultats d'audience des abonnements, en l'occurrence, de plusieurs journaux, notamment le Wall Street Journal et le New York Times, qui montrent que la révolution numérique se traduit quand même par un modèle économique.
Oui, en tout cas, c'est un premier signe de bonne nouvelle pour la presse, en tout cas pour la presse anglo-saxonne, puisque le Wall Street Journal vient d'atteindre quasiment les 2 millions d'abonnés numériques. Alors certes, c'est loin derrière le New York Times, hein, qui est quasiment à 5 millions d'abonnés numériques, mais on voit qu'il y a une bonne tendance. Sur le dernier trimestre, il y a eu 75 000 nouveaux abonnés, donc c'est deux fois plus qu'au trimestre précédent. Donc visiblement, une dynamique est enclenchée pour le Wall Street Journal, donc qui appartient aujourd'hui à News Corp. Et de l'autre côté, le New York Times, qui a enregistré 342 000 abonnés nouveaux au dernier trimestre, donc une forte là aussi, une très forte poussée des abonnements numériques, avec dans les 4,4 millions d'abonnés payants, il y en a 3,4 millions directement au quotidien, et puis 966 000 qui sont abonnés à cette offre de mots croisés et de recettes de cuisine. Donc ça, c'est une application mobile, donc ça n'a rien à voir avec la presse, mais c'est une forme de diversification qui a l'air de fonctionner pour le New York Times. Et ça, avec les abonnés papier, on arrive à un peu plus de 5,3 millions d'abonnés et de lecteurs du New York Times, donc c'est plutôt une réussite, d'autant que la publicité, elle, continue de baisser, moins 11%, donc visiblement les abonnements arrivent à compenser, en tout cas, ou à limiter la chute du marché publicitaire.
C'est une bonne nouvelle, Catherine Sueur.
C'est une très bonne nouvelle, et c'est surtout c'est une très bonne nouvelle si on regarde sur le temps long, parce que finalement le New York Times à la fin des années 2000 a vendu, si je me souviens bien, 21 étages de son immeuble de 25 étages à New York. Donc on disait tous la presse est finie, personne ne payera jamais pour lire la presse est gratuite, etc. Et on se rend compte 10 ans plus tard qu'il y a un modèle économique qui existe, que les gens s'abonnent, que les gens
ils vont racheter leurs étages.
Ils les ont déjà rachetés. Et par ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, les mots croisés, c'est consubstantiel à la presse. Quand vous dites ça n'a rien à voir, il y a toujours des mots croisés.
C'est une application à part, en fait.
C'est une application à part, mais c'est aussi la presse qui a porté les mots croisés. Il y en a dans tous
d'ailleurs,
les
vous voyez faire vos mots croisés, là, tout à l'heure, en émission. Quand Zoé parlait de Villers-Cotterêts, ça vous a complètement
Elle
ennuyé.
Prenait des notes, au contraire.
À suivre dans Soft Power, Catherine Sueur, présidente du directoire de Télérama, est mon invitée ce soir. Et juste avant, ce sera Félix Tréguer pour son livre L'Utopie déchue, mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité, un mot sur l'auteur, compositeur, interprète Jesse Markin, d'origine libérienne, une sorte d'anomalie, dans le paysage musical en Finlande. Alors tout au long de cette décennie, la langue finnoise est devenue de plus en plus dominante sur le marché de la musique finlandaise et encore davantage sur la scène hip-hop. Pop où l'anglais se faisait plus rare. Le tout premier album de Jesse Markin, Folk, après 12 ans dans le groupe hip-hop The Megaphone State, est justement en anglais, même si ses influences sont diverses entre électro, indie, rap, souvent nourri au hasard des trouvailles qu'il a faites chez les disquaires. Dans ses chansons, Jesse Markin aborde la xénophobie, l'espoir, la soif d'argent, la solitude, autant de sujets qu'il réussit à traiter avec précision et donne à sa musique un ton mélancolique et accrocheur un peu à part. If your dreams ain't scary, they ain't big enough. Can I wait for heaven to deliver us? 10 toes down, I'm trying to lift it up. You either trust yourself or believe in luck. Keeping up while keeping such is all a part of living. One day, your day, one, it's your decision. Stop stopping yourself and dwell. I get it, sick and tired of being tired and sick with a vision. It's a transition. The ground is breaking. I'm impatient. Over the pavement. Towards our haven. Walls are caving, overtaking, palpitations. Thoughts are racing, still can't I turn away. Cause I feel it down in my bones, something I haven't been feeling before. They told me I should be letting it go, let it all go. Hell, what do they know? What do they know? What do they know? 4 or 7 times, gotta stand up bait. Ever since I was a kid, I had to stand up straight. Hold the ground whenever they try to stand your way. Cause the world gonna keep spinning while they stand in place. Lost friends on the way, they can't stand my face. At the end, they just couldn't understand the weight.
face. But no fear, cause they cannot occupy the same space. Now look, can you relate? Every step taken can make you crash or break. But your best teacher is always your last mistake. See, I've been down to disappointments and without the chase. The stress got me fighting them shakes. A war zone, I've been putting down what it takes on my own. Just to put it down on my plate. Taking a bow for the grace. Feet off the ground while I break like jaw bones. I'm out. The ground is breaking. I'm impatient. Off the pavement. Towards a haven.
Jesse Markin sur France Culture, 18h45.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Ce soir, Félix Tréguer, chercheur membre de la Quadrature du Net, auteur de L'Utopie des Chuses, Wiesfeld.
Oui, il est, alors vous allez nous le dire, vous êtes chercheur en sciences sociales, vous refusez d'être qualifié de philosophe ou de sociologue, effectivement vous menez un travail qui multiplie les disciplines, vous êtes donc chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, vous êtes post-doctorant au CERI à Sciences Po, vous avez publié ce livre, c'est votre premier livre, c'est une vraie somme totale, on va en parler, mais je voulais rappeler effectivement que vous êtes membre fondateur de la Quadrature du Net, alors c'est une association dédiée à la défense des libertés numériques. Vous avez commencé à travailler, je crois, très jeune dessus. Elle a été fondée en 2008, mais je crois qu'elle a été formalisée en 2013, c'est ça l'idée. Ses buts affichés, défendre les droits et les libertés des citoyens sur Internet, maintenir et promouvoir un Internet libre et ouvert, informer et mobiliser sur les projets qui mettent en péril les libertés et proposer les alternatives aux solutions favorisées par les législateurs. Elle s'est imposée, cette association, progressivement dans le débat public, notamment au moment de la mise en place d'Adopi et de la réponse graduée. Là, vous avez beaucoup fait parler de vous. Je crois que Christine Albanel, vous avez qualifié de 4 mecs dans un garage. Bon, la suite a prouvé que non. Voilà, c'est ça. Vous avez fait campagne contre le projet de loi relatif au renseignement. Et plus récemment, je voulais qu'on aborde juste cette question parce que c'est votre actualité. Vous avez déposé un recours contre l'expérimentation des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée du lycée des Égalités à Nice. Ça, c'est une volonté de Christian Estrosi, je crois. Oui. Vous aviez fait ce recours l'année dernière. Et là, il y a une décision du tribunal administratif qui est attendu, je crois, dans les jours qui viennent.
D'ici la fin du mois, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que c'est l'enjeu ? Parce que vous faites partie des adversaires, en tout cas, de la reconnaissance faciale. On en a parlé avec Emmanuel Paquette l'année dernière. Il y a un moratoire à l'échelle européenne qui a l'air de tomber un petit peu à l'eau. Où on en est de cette question de la reconnaissance faciale ?
Ouais, alors, c'est ce recours sur l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans les lycées de la région PACA a été effectivement déposé l'année dernière par la Quadrature du Net, la Ligue des Droits de l'Homme, la CGT Action et des parents d'élèves. On en a déposé un nouveau aussi sur la vidéosurveillance automatisée qui se déploie à Marseille et bientôt d'autres recours se profilent sur d'autres villes où cette technologie arrive. En gros, ça correspond à une mutation un peu de nos dossiers, en effet, à mesure que l'informatique prolifère et que ses usages en matière de contrôle social s'étendent en dehors d'Internet et maintenant dans nos villes. Il s'agit pour nous, à travers une campagne qu'on a lancée, d'organiser d'abord, de documenter en fait ces développements, reconnaissance faciale, police prédictive, j'en passe, et des meilleurs.
Parce qu'effectivement, c'est un enjeu, ils ne sont pas nécessairement extrêmement connus.
Non, c'est ça qui est le plus choquant.
À part quand Christian Estrosi en fait un argument de campagne, en l'occurrence sur le lycée de Nice, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les endroits où l'institution d'État utilise ces technologies.
Absolument, en fait, il y a quelques élus, notamment dans le Sud-Est, dont les discours sécuritaires font qu'ils n'ont aucun problème à assumer ces politiques, mais en fait, c'est des choses qu'on voit poindre depuis 4-5 ans. Du côté de la SNCF, dans des villes comme Valenciennes, Toulouse, Paris aussi, avec la préfecture de police de Paris qui a testé ces technologies aussi depuis plusieurs années. Et le problème majeur, en fait, le premier problème auquel on se confronte, c'est l'opacité qui entoure ces développements. Là où aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a une certaine transparence proactive des pouvoirs publics en la matière, et ce serait bien la moindre des choses. En France, tout cela se passe avec un manque de transparence vraiment choquant. Et au-delà de ce manque de transparence, l'enjeu aussi, c'est de refuser ces formes de contrôle social massif qui se déploient dans nos villes.
Oui, alors on va y revenir. Mais qu'est-ce qui vous dérange, on va le dire frontalement, dans le système de la reconnaissance faciale ? C'est un peu l'enjeu de votre livre. Votre projet, on va en parler, mais la question de l'abandon total de la suspicion préalable
Par exemple, tout simplement la reconnaissance faciale, et en fait on parle beaucoup de la reconnaissance faciale, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres applications de ce que nous on appelle la vidéosurveillance automatisée, les promoteurs l'appellent vidéosurveillance intelligente, elle permet de faire de la reconnaissance de démarches qui permet d'identifier des individus, nos démarches sont aussi des signatures qui permettent de nous identifier, d'accoutrements vestimentaires, de signes distinctifs divers et variés. En fait, ces technologies s'assimilent à une forme de contrôle d'identité permanent, invisible et incontestable et généralisé. Et donc c'est des formes de contrôle qui mettent fin à l'anonymat dans nos villes et des formes de liberté qu'on devrait chérir en démocratie.
Alors justement, c'est l'objet de votre livre, L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e siècle, 21e siècle. C'était quoi le projet de ce livre? Vous le dites, c'est une contre-histoire, donc c'est un livre extrêmement conséquent qui en revient, qui se place sous le signe de Michel Foucault ou d'Habermas, clairement, où vous essayez de faire une espèce de contre-histoire de la manière dont, selon vous, et c'est la thèse de votre livre, l'espace public est d'une certaine manière systématiquement réinvesti par l'État et par une volonté de contrôle.
Mais moi, en fait, j'ai rejoint la quadrature du net il y a plus de 10 ans avec cette idée que effectivement Internet allait permettre de démocratiser l'espace médiatique. J'ai beaucoup cru en ces utopies fondatrices et à force de se casser les dents contre des projets législatifs et des formes et l'évolution aussi de l'économie politique d'Internet, sa recentralisation sous l'égide de l'oligopole du numérique, Google, Facebook et j'en passe. C'est voilà, l'idée c'était de faire sens en fait de cette réaction de ces formes de reprise en main d'un espace médiatique qu'on avait cru émancipateur et qui en fait s'accompagne de formes de contrôle social, de formes de censure, de surveillance extrêmement, extrêmement massive, de plus en plus automatisées et qui vont complètement à rebours de la promesse libérale au sens du libéralisme politique qui est censée sous-tendre nos régimes politiques.
Mais alors justement, vous revenez quasiment à vous en repasser par l'édition, hein, c'est pour ça que ça commence au 15e siècle, et vous arrivez jusqu'à en fait essayer de décrire aussi en creux une contre-histoire ou en tout cas de définir à contrario une certaine idée de la liberté d'expression. Vous montrez comment la loi change, comment à la fois elle progresse en 1789 puis elle régresse à nouveau pour à la fois s'établir dans une définition importante qui est celle de la loi de 1881 qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à l'État? Vous parlez d'un oligopole, mais effectivement le centre de ce sujet c'est l'État et on a souvent, intuitivement, le grand public est avec nous ici, les gens qui commentent à Soft Power, l'impression que la question de l'État est presque on va dire dérisoire aujourd'hui, avec notamment l'émergence de grands acteurs comme Google et Facebook face auxquels l'État semble désormais emparer. Alors c'est quoi l'enjeu?
Alors l'enjeu de revenir aussi loin en arrière, c'était justement de comprendre comment tout un tas de formes de contrôle des médias, de régulation de la liberté d'expression, de surveillance des opinions, remontent vraiment à la genèse de l'État moderne au XVIe siècle, en lien aussi avec les usages contestataires de l'imprimerie à l'époque. Et une constante dans l'histoire des médias, c'est justement l'alliance entre l'État et le gouvernement des sociétés de masse, avec les intermédiaires techniques et ceux qui gèrent les moyens de communication.
Alors donc c'était les imprimeurs libraires,
ouais. C'était ceux qui effectivement ont déployé les premiers réseaux de télécommunications au 19e siècle. Ça a été bien évidemment les grands groupes de presse et de médias au moment de la libéralisation de l'audiovisuel dans les années 80. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, bien plus qu'une forme de reprise en main ou une forme de régulation de l'économie numérique, hein, où les États tapent du poing sur la table pour remettre de l'ordre dans l'économie numérique. Moi, je crois que ce à quoi on assiste, c'est plutôt la cooptation des formes de gouvernement, de prédiction des comportements qui ont été développés sous l'égide du capitalisme de surveillance mis au point par Google, Facebook et d'autres, par les États, pour censurer, pour surveiller, parce que c'est des formes de régulation de nos espaces d'expression qu'avaient mis en place ces grandes plateformes à des fins publicitaires et qui sont aussi extrêmement intéressantes du point de vue de ceux qui président à l'État aujourd'hui. Mmh. Et dans le débat sur les fake news, dans le débat sur la répression des discours de haine, plein de choses qui ont l'air comme ça tout à fait légitimes. Nous, il nous semble qu'il y a plein d'autres manières de lutter contre ces dérives et ces problèmes qui tiennent en grande partie au modèle économique de ces grandes plateformes. Il faut le rappeler. Mais plutôt que d'explorer ces autres solutions, on préfère promouvoir la censure automatisée, comme c'est le cas à l'heure actuelle de la proposition de loi sur les discours de haine en France ou du règlement européen contre la propagande terroriste. On préfère aussi mettre en place des groupes de contact avec Google et Facebook au niveau du ministère de l'Intérieur pour savoir comment on va pouvoir faciliter l'accès des autorités françaises à leurs serveurs à des fins de surveillance. Il y a plein d'exemples de ce type.
Bon alors, je vais garder ma question avocat du diable pour la fin, mais effectivement, ce qui est aussi très intéressant dans ce livre, et pour le coup, on a eu effectivement longtemps et dans plusieurs livres une histoire aussi de ces 10 dernières années, de la manière dont des endroits que des personnalités comme Julian Assange pour l'Wikileaks ou Edward Snowden ont d'une certaine manière mis le doigt sur ces questions de la surveillance de masse. Vous l'écrivez côté français avec des figures qu'on connaît pas nécessairement autant, Laurent Chemla qui fait partie aussi des gens qui travaillent disons à vos côtés, un jeune hacker qui dans les années 80 pose le doigt sur ces questions-là, et puis des personnalités comme Stéphane Bortmeyer, que moi je connaissais pas, qui a été à la tête de la CNAM, du CNAM, du Conservatoire National des Maîtrises.
Il n'était pas à la tête du CNAM, il était informaticien au CNAM.
Il était informaticien au CNAM, et lui fait partie des gens qui... Alors c'est quoi cette histoire française? Elle existe quand même en fait, parce qu'on parle souvent effectivement de la NSA. Vous êtes concrètement aussi, vous documentez ce qui se passe du côté de la DGSE, de la DGSI?
Oui, l'enjeu c'était un petit peu d'aller à rebours d'une historiographie d'Internet qui est largement dominée par le contexte états-unien et anglo-saxon de manière plus générale, et de retrouver des traces de cette histoire française ou européenne en matière de cette histoire politique d'Internet. Les informaticiens dont vous parlez, ça fait partie en France en effet des informaticiens politisés qui dans les années 90 vont contribuer à équiper les mouvements sociaux et essayer d'outiller ces mouvements sociaux en leur apportant en fait Internet tout simplement. Et un exemple, c'est effectivement Bortmeyer et Laurent Chemla qui en 95, au moment du mouvement contre la réforme des retraites déjà à l'époque, vont travailler avec des syndicalistes des postes et télécoms de chez Sud, récupérer un vieil ordinateur et monter les toutes premières mailing lists et les tout premiers sites web qui vont permettre à toute une génération, une génération de militants, d'explorer les potentialités d'Internet et d'approfondir ces usages militants d'Internet. Et ça renvoie en fait aux expérimentations d'Internet par une mouvance très diverse qui est la mouvance altermondialiste à la fin des années 90.
Et alors vous, pour conclure et pour se faire effectivement potentiellement l'avocat du diable, dans une conclusion qui est assez, on va dire, incisive et synthétique, parce qu'elle fait je crois 3 pages sur un livre qui en fait plus de 300, vous prenez, vous qui pourtant, vous le dites, vous avez été un grand enthousiaste, vous prenez une désescalade numérique?
Ouais, je crois que, enfin j'en suis vraiment venu à penser, enfin... face à la vraie promesse d'Internet et de l'informatique, et ce qui a pu générer ces utopies, c'est l'apparition de l'ordinateur personnel à partir du début des années 80. On n'est plus dans le schéma où l'ordinateur est simplement une grosse machine qui équipe les grandes organisations, les grandes bureaucraties. On sort en fait d'une période de critique intense de l'informatique au sein du champ de la critique sociale, du champ militant dans les années 70.
Parce que ça, vous le rappelez quand même, initialement l'ordinateur et l'informatique vient des milieux militaires américains, puis finalement elle s'en émancipe, et finalement aujourd'hui au moment où elle s'en émancipe, on perd la critique.
Mais justement, je crois qu'on revient dans une période technocritique qu'on avait connue et beaucoup trop oubliée sans doute des années 70, où l'informatique à l'époque était l'informatique des grandes organisations. Elle était critiquée en matière de précarisation du travail, comme peut l'être aujourd'hui l'intelligence artificielle. Elle était critiquée du fait de son usage en matière de surveillance d'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient à une centralisation très forte de l'informatique à l'aune de ces nouveaux paradigmes que sont le big data, l'intelligence artificielle. On est dans un contexte politique sécuritaire qui permet l'appropriation en fait de ces nouvelles incarnations de l'informatique à des fins de contrôle social. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire vivre l'imaginaire d'une désescalade technologique.
L'imaginaire, à défaut peut-être
d'une version... D'abord l'imaginaire et ensuite en déduire des répertoires d'action et faire vivre des répertoires d'action qui permettent de l'incarner dans des pratiques militantes et de résistance, bien évidemment.
Avocat du diable encore, ce que vous décrivez, c'est un Internet idéalisé dans les garages avec les hippies, pour caricaturer. C'est le marché et les États qui ont permis à Internet de toucher tout le monde et plus seulement les geeks, les hipsters et les anarcho-utopistes. Il y a des dérives, des problèmes, mais ça continue à être des outils utiles, formidables, qui font gagner du temps, Wikipédia et Firefox, et le billet de TGV dématérialisé, le musée du Louvre, etc. On en a parlé. Pourquoi être si pessimiste, si inquiet, et ne voir finalement que l'Internet vide et non pas l'Internet plein?
Moi, je crois toujours qu'en effet, il peut y avoir des usages médiatiques d'Internet pour faire circuler la connaissance, les savoirs, et les expressions publiques, et tout ça est bien évidemment toujours là. On est aussi obligé de constater que certains approfondissements du processus de démocratisation dans nos sociétés ont eu lieu sans Internet. Et on est dans une période où, depuis 20 ans qu'Internet transforme nos sociétés, on peut pas dire que la démocratie ait largement progressé, même si peut-être qu'en effet l'accès à l'information a été rendu plus pratique, plus ubiquitaire. Et donc bien évidemment il y a des usages émancipateurs d'Internet encore, il y a des mouvements sociaux qui se l'approprient pour transformer la société dans une direction que...
Mais est-ce que c'était pas naïf de croire que le marché et l'État ne seraient pas là? Est-ce que c'est pas grâce au marché et grâce à l'État que l'Internet aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui du matin au soir nous accompagne et que ça aurait pas été le cas s'il était resté encore une fois entre les geeks et les hipsters?
Je crois que, enfin, de fait il y a des gens qui font vivre Internet sur un modèle très différent de manière beaucoup plus low-tech et décentralisée et du bricolage.
Non, mais même ceux qui le font avec le marché. Après tout, on avait des supermarchés, on les a aujourd'hui sur Internet. C'est bien d'avoir des choses sur Internet, de pouvoir acheter des produits, de pouvoir vivre, de pouvoir...
Bah, c'est là où moi je suis obligé de constater que le commerce électronique est en train de vider les villes moyennes et moins moyennes de leur commerce de proximité. Et je pense qu'en fait, il y a plein de
dérives.
De dérives, en fait, et d'évolution de nos sociétés vers le tout technologique, vers la centralisation qu'induit en effet des communications toujours plus rapides à travers l'informatique.
Merci à vous, Félix Tréguer. Le livre a paru en septembre, Réseau SFS, c'est ça? Mais vous aviez déjà
tout
été
fait,
reçu
il est toujours
sur France Culture,
disponible.
Mais on avait pensé intéressant de vous réinventer, de vous réinventer,
réinventer, pardon. C'est très beau, cela.
On l'a réinventé.
Il est disponible chez Fayard à la collection Avenir, qui est dirigée, je crois, par Geoffroy Laganerie. Et donc, c'est une belle somme. Belle somme, contre-histoire.
Soft Power, dans un instant, la suite de cette émission consacrée à Télérama, le magazine hebdo télé que nous allons passer en revue, mettre sur le grill. Et je reçois dans un instant Catherine Sueur, la présidente du directoire de Télérama. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique, des médias et de la politique culturelle chaque semaine. Et ce podcast est disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Ça fait beaucoup de choses que vous aviez décriées, Félix Tréguer. On peut nous trouver sous tous ces outils commerciaux qui existent aussi dans le monde. Précisément 19h. Bonsoir Catherine Sueur.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du directoire de Télérama. Vous serez interrogée par Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfès de France Culture. Il y a combien de temps que vous êtes à la tête de ce journal?
J'ai été nommée en janvier 2019, donc il y a un peu plus d'un an.
Quels sont les remarques, comment vous avez compris cette équipe et aussi, je dirais, son ADN, sa manière d'être qui est un peu, comment dire, singulière dans la presse française.
Absolument, Télérama, moi j'ai souvent coutume de dire que Télérama, c'est un magazine qu'on ne définit pas en une phrase. Vous avez dit effectivement que c'était un magazine télé, mais en fait, pas que. Il y a un certain nombre de gens d'ailleurs qui sont abonnés et qui lisent Télérama alors même qu'ils n'ont pas la télévision. Donc c'est Zoé Sfès en fait partie, merci. Donc c'est un journal qui effectivement parle de la télévision, mais parle de la culture et qui parle aussi de la société dans laquelle on est par le prisme culturel. Donc c'est un journal qui a maintenant près de 70 ans et qui a pour particularité de s'être toujours adapté à l'évolution des usages.
Vous voulez dire que c'est pas Kodak ou le Walkman? Télérama va survivre au numérique.
Télérama va survivre au numérique. Télérama d'ailleurs était antérieur à la télévision. Initialement, c'est un journal qui s'appelait Radio Cinéma, qui existait
catholique
avant,
d'ailleurs.
Catholique, absolument.
Catholique de gauche, on peut dire que c'est ça l'ADN initialement.
On peut tout à fait dire ça. On peut tout à fait
chrétien
dire.
De gauche.
Chrétien de gauche. Et quand la télé apparaît, Télérama devient Télérama. Et au fur et à mesure de l'évolution des usages culturels, a enrichi son offre. Donc entre le livre de poche, par exemple, est arrivé, Télérama s'est mis à chroniquer le livre de poche. Quand le podcast est arrivé, Télérama a chroniqué le podcast. Et là, bien sûr, avec l'arrivée des plateformes, on a parlé tout à l'heure de Netflix, mais de Disney+, Télérama chronique aussi et critique tous ces nouveaux usages. Donc c'est un journal qui est effectivement un journal culturel, c'est un journal qui raconte la société dans laquelle on vit par le biais de la culture et qui évolue sans cesse.
Alors parlons tout de suite d'un sujet qui fâche, à savoir l'âge des lecteurs. Il y a déjà une différence entre le papier, les lecteurs papier, les lecteurs numériques. Dans un cas, on est dans les maisons de retraite, dans l'autre, on est un peu plus...
Alors, je pense que je ne peux pas du tout vous laisser dire ça. Effectivement, 60% de nos lecteurs ont plus de 60 ans, mais je pense que d'ailleurs, on pourrait parler peut-être de l'âge des auditeurs de France Culture aussi.
Vous allez dire que ce sont les mêmes, c'est ça que vous voulez dire.
Je vais exactement dire que ce sont les mêmes.
Une société qui vieillit, et donc les gens de plus de 60 ans parfois pensent comme des gens de 50 ans.
Et puis, on n'est pas à la retraite à 60 ans.
Non, absolument, mais de mémoire, les auditeurs de France Culture avaient à peu près le même âge que les lecteurs de Télérama, et je pense qu'on aime les auditeurs de France Culture comme les lecteurs de Télérama. Mais effectivement, on a un lectorat, qui a l'âge qu'il a et qu'on aime et qui continue à être très fidèle.
Qui vous porte, c'est ça, parce que vous, est-ce qu'on peut le dire quand même, vous êtes on a tout votre groupe, parce que comme vous avez beaucoup d'abonnements versus d'autres magazines, je crois que ce groupe, en tout cas avec le Courrier International, etc., vit beaucoup grâce à ses abonnements papier. qui, alors, on a parlé de l'âge, mais va finir peut-être par se tasser un peu, notamment parce que les plus jeunes, c'est pas qu'ils vous lisent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas les mêmes types d'habitudes. Donc ça, c'est un gros enjeu pour vous.
C'est exactement un gros enjeu. Donc effectivement, Télérama a beaucoup d'abonnés, plus de 420 000 abonnés sur le papier.
Ça fait rêver pas mal.
Ça fait rêver pas mal de titres de presse et on les remercie. Et tout l'enjeu de Télérama, c'est effectivement de se dire, on a des abonnés papier et on les aime. Ils se réabonnent à 85%. Donc c'est un lectorat très fidèle parce que Télérama, c'est un titre qui est très identitaire. Et tout l'enjeu aujourd'hui de Télérama, c'est de recréer la même fidélité sur le numérique et d'essayer d'aller à la conquête de nouveaux lecteurs. Et là où Télérama est probablement un titre un peu particulier, c'est qu'il y a beaucoup de titres de presse qui font une bascule, qui cherchent à faire basculer leurs lecteurs du print vers le numérique. Alors qu'aujourd'hui à Télérama, ce qu'on essaie de faire, c'est de continuer à garder nos lecteurs papier et d'aller à la conquête de nouveaux lecteurs sur le numérique.
Pourquoi les news magazines, à savoir l'Obs, dont vous occupez aussi, on y reviendra, Le Point, Marianne sont en difficulté, pourquoi Télérama y échappe pour une part selon vous ?
C'est une excellente question.
Celle-là, elle est gentille après une question difficile.
Pourquoi on y échappe ? Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que plus de 75%, je crois, des lecteurs de Télérama ne lisent que Télérama comme magazine. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un titre qui est très identitaire, qui est effectivement un volet serviciel, ça il faut le dire, puisqu'on propose le programme télé, on propose beaucoup de critiques, donc c'est un journal qui vous apporte quelque chose.
Atypique aussi, c'est un journal qui n'existe pas vraiment dans sa forme à l'étranger, par exemple.
Non, moi, on me demande souvent quels sont nos concurrents, effectivement dans le dos l'univers de la presse, il n'y a pas vraiment de concurrent à Télérama. Et donc, je pense qu'une des particularités de Télérama, c'est effectivement ce volet à la fois serviciel, aider ses lecteurs à dire qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je veux voir au cinéma, mais également qui est capable de faire des articles de fond sur, bien sûr, la culture, mais aussi la société dans laquelle on vit. On a vu la une qu'on a fait, le papier qu'on a fait sur les grosses, on a fait des papiers sur la BD, on a fait des papiers sur l'école, on fait beaucoup de papiers aussi sur les écrans et sur la relation de nos enfants aux écrans, donc c'est un journal qui est un tout, je pense, pour nos lecteurs, ils s'y retrouvent et c'est pour ça qu'ils sont si fidèles.
Emmanuel Paquette.
Oui, on parlait du rajeunissement de vos lecteurs. Aujourd'hui, c'est vrai que vous dépendez à 90% des abonnements, 9% à peu près des ventes en kiosque et 0,4% du numérique. Donc il y a tout à faire. Alors c'est peut-être la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a tout à faire. En même temps, c'est aujourd'hui, vous avez 2000 abonnés, vous devez être probablement le titre qui a le moins d'abonnés numériques de toute la presse française. Comment vous expliquez ce retard, hein ?
Alors je pense d'abord que vous avez les chiffres de l'OJD qui datent un petit peu.
C'est 10 000, je crois, non, c'est
aujourd'hui, effectivement, on est à peu près à plus de 10 000 abonnés numériques. On est parti très bas, effectivement. On est parti au début de l'année 2019 à 1500 abonnés numériques. À la fin de l'année, on est aujourd'hui, on est à plus de 10 000 abonnés. Donc c'est vrai que le poids et le pourcentage est modeste parce qu'on a effectivement un énorme portefeuille d'abonnés papier. Donc effectivement, 10 000 sur 420 000, ça fera toujours petit. On va mettre du temps à effectivement à avoir un nombre d'abonnés numériques commensurable à nos abonnés papier. Mais c'est pas parce qu'on est parti un peu en retard par rapport aux autres qu'on va pas y arriver, puisque je pense que l'offre de Télérama aujourd'hui correspond vraiment à un besoin, celui de faire de la prescription culturelle et vraiment d'être un titre très serviciel, en fait.
Et justement, alors parmi les aspects serviciels de votre titre, quand même, on peut parler de Télérama Sortir, qui en fait fait partie des. Il y a un petit fascicule en papier qui a clairement pris la place de feu le Pariscope. Pensons à eux tous qui ont disparu et qui maintenant est aussi un site autonome, je crois. Mais ça, c'est pas ça qui va vous apporter des abonnés numériques. Comment est-ce que vous vous servez ? Parce que clairement, pour des gens comme moi qui se servent de Télérama sur Internet, effectivement, on a vu qu'au fur et à mesure de cette année, vous bloquez de plus en plus de papiers et de critiques. Ça fait, je pense, partie de votre stratégie. Ouais. Vous avez une grosse stratégie vidéo aussi à Télérama, je crois, avec visiblement des choses, peut-être, comment vous allez vous servir de ça pour essayer de recruter des gens ?
Alors effectivement, pourquoi on s'abonnerait à Télérama sur le numérique ? On a, et vous l'avez remarqué, donc verrouillé un certain nombre de nos contenus, comme l'ont fait beaucoup de nos confrères. Donc on avait 20% de contenus payants, on est aujourd'hui à près de 40% de contenus payants. Oui. Ça nous a pas fait baisser du tout notre audience, d'ailleurs. Hein, on a quand même progressé de 13%. Notre audience a progressé 13% entre 2018 et 2019. Donc, ce qu'on apporte à nos abonnés numériques, c'est effectivement des contenus payants avec de la prescription culturelle, des papiers de fond. On leur offre aussi l'accès à des films en VOD. On a des partenaires.
Alors ça, c'est le bouquet. C'est quelque chose d'assez bizarre que vous faites. Enfin, d'assez bizarre, c'est très bien, mais on en entend peu parler. Vous leur offrez, en fait, vous êtes en train, vous aussi, de vous faire votre Netflixation plateformisation.
C'est
de la plateformisation des plateformes, je pense qu'on
VOD, on peut dire.
L'idée, c'est de dire, effectivement, on a de plus en plus d'offres de VOD. On a un certain nombre de nos lecteurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'abonner à plusieurs plateformes. Effectivement, nous, on a un partenariat avec Canal VOD, avec Mubi, qui est une plateforme de films de patrimoine extrêmement intéressante, avec Bref, qui est une plateforme de courts-métrages, avec Spicy, de documentaires. Et effectivement, quand vous êtes abonné à Télérama, vous pouvez accéder à ces films, chaque jour. On a des films qu'on propose à nos abonnés. Donc, on espère vraiment qu'avec cette conjonction de contenu, de films, et puis surtout de recommandations, et puisqu'on essaie de répondre à cette question qui est, on regarde quoi ce soir, quelle que soit la plateforme, quel que soit le support, c'est-à-dire que ce soit la télé, en replay, sur une plateforme, sur YouTube aussi, on chronique beaucoup YouTube, et essayer vraiment d'accompagner nos lecteurs dans cette offre qui est de plus en plus pléthorique.
Emmanuel Paquette.
Alors quand on regarde les chiffres, alors encore une fois c'est les chiffres 2018, puisque 2019 on les a pas encore, on les attend toujours, mais en gros le titre fait 68,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net de 6,8 millions d'euros, donc c'est quasiment 10% de rentabilité. Ça c'est dans les comptes, hein, consolidés, donc je peux vous les
dire. Du groupe Le Monde.
Du groupe Le Monde, ouais. Exactement. Et avec un résultat d'exploitation de 10,6 millions d'euros, quand en face, Le Monde seul fait des pertes de 3,5 millions. On sait que c'est un sujet de tension au sein de Télérama, que Télérama tous les ans renfloue Le Monde, donc c'est de l'argent qui va renflouer les caisses de celui qui en perd. Et ça, ça crée des tensions en interne entre Le Monde et Télérama. Est-ce que vous avez les capacités d'investir autant que vous le pouviez si vous étiez seul que dans un groupe dans lequel vous êtes obligé d'éponger les pertes du plus gros titre?
Plusieurs choses là-dessus. D'abord, je pense que Le Monde est en train vraiment de faire sa transition numérique aussi. Il y a plus de 220 000 abonnés au monde.fr aujourd'hui. Vous parliez du New York Times, et je pense que vraiment Le Monde prend le même chemin. Annoncer un objectif d'un million d'abonnés, je pense qu'ils y arriveront. On y arrivera, premièrement. Deuxièmement, effectivement, Télérama est un des titres les plus rentables, a des taux de rentabilité d'ailleurs qui feraient pâlir certaines startups, puisqu'on a plus de 15% de rentabilité, c'est vrai, mais dans cette rentabilité, on a pu investir, on a lancé une nouvelle application cette année, on a effectivement beaucoup investi sur le numérique.
Votre investissement numérique, c'est combien de millions d'euros à peu près ?
2 millions d'euros, on a investi en 2019 et on investira aussi en 2020.
C'est moi qui ai perte du monde, hein, 3,5 millions d'euros.
On est là pour parler de Télérama. Et du coup, on a, je pense, les moyens d'investir. Et ce que je voudrais dire aussi sur Le Monde, c'est que on est un groupe et aujourd'hui Télérama a un juste retour aussi de toute l'expérience et l'expertise que Le Monde a développée sur l'abonnement numérique. Et donc les équipes du Monde et les équipes de Télérama travaillent main dans la main pour effectivement
changer. Donc c'est normal que vous le fassiez payer un petit peu.
Ce que je veux dire, c'est qu'on, ça n'est,
il n'y a pas un investissement pas à vide.
Exactement, il n'y a pas que des flux financiers. Donc il y a aussi des échanges et des équipes qui travaillent pour le groupe. Je pense à la direction technique, à la direction des abonnements, qui permettent à Télérama d'accélérer et de rattraper un peu son retard sur le numérique qu'on va rattraper à grands pas.
Un mot sur les autres titres du groupe Le Monde, puisque vous occupez aussi du Courrier international, je crois de La Vie, de l'Obs. Vous chapeautez ces trois titres d'une certaine manière, qui ont leur autonomie éditoriale. Le regard que vous portez du coup sur l'ensemble de ces magazines versus Télérama?
Chacun a une identité propre et très différente de Télérama. D'ailleurs, c'est une des forces du groupe Le Monde, c'est d'avoir chacun des titres qui a une identité éditoriale très forte. Je pense que Courrier international est un titre qui aujourd'hui a un regard extrêmement intéressant dans le monde dans lequel on vit, puisque chaque semaine Courrier propose une sélection d'articles de la presse internationale. C'est le premier hebdo français en termes d'abonnement numérique. Ils sont à 35 000 abonnés numériques.
Mais il a été presque sauvé, on peut le dire, par la conversion numérique. Ouais. Je l'ai posé par Arnaud Aubron, ça fait partie des titres versus l'Obs, qui a mis beaucoup plus de temps quand même.
Exactement, un peu plus de temps, mais qui va y arriver. L'Obs cette année quand même a des bons résultats financiers, a fini l'année 2019 avec un résultat d'exploitation positif, avec un nombre d'abonnés numériques qui est aujourd'hui au-delà de 15 000 abonnés numériques, des abonnés papier qui se stabilisent, et je pense que l'Obs arrive à donner un regard différent sur l'actualité, puisqu'effectivement c'est toute la difficulté, je pense qu'Emmanuel Paquette le sait, des News Magazine, qui est effectivement d'à la fois sur le numérique d'être dans l'actualité, mais d'essayer d'avoir un regard un petit peu différent, et je pense que c'est ce que l'Obs essaie de faire, avec notamment la série qu'ils ont faite ces derniers temps, qui s'appelle 2049, qui est un ensemble de conférences et de retours dans le magazine, sur
comment sera le monde en 2049, comment on va se déplacer, comment on va manger, comment on va apprendre. Et je pense que c'est vraiment le rôle d'un magazine comme l'Obs de donner ce regard un petit peu différent sur l'actualité. Ils le font aujourd'hui, Dominique Norin et Grégoire de Vessière le font très bien.
Un mot sur la vie.
La vie, alors c'est un hebdo chrétien d'actualité, c'est effectivement d'ailleurs le Télérama est issu de la vie, hein, et d'ailleurs pendant longtemps, et ça il ne faut pas l'oublier, et moi je le dis parfois, la vie a pendant longtemps financé Télérama, qui au début de son histoire ne gagnait pas encore autant d'argent, et c'était vraiment parce que la vie, dans les presses de la vie catholique, il y avait ça, les dirigeants croyaient vraiment à ce supplément culturel que Télérama a pu voir jour. Je pense que aujourd'hui, la vie donne un regard sur l'actualité, un regard chrétien, a refondu son hebdomadaire avec toute un cahier au début qui est très intéressant, qui s'appelle le cahier Espérance, qui montre effectivement toutes les initiatives d'un certain nombre d'associations qui voient le monde un peu différemment et qui essaient de montrer une société plus solidaire, ce qui se sont un besoin, je crois. Après, c'est effectivement un journal qui s'adresse avant tout aux chrétiens.
Manuel Paquette.
Alors, petite question sur la dernière couverture. Pourquoi on rejette les gros avec Leslie Barbara Butch qui est en couverture et qui finalement a été censurée sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous allez prendre des mesures pour...
Alors, d'abord, c'est une très très belle une sur pourquoi on rejette les gros et un très beau papier de Valérie Lehoux qui raconte effectivement comment notamment les femmes grosses ont du mal dans la société dans laquelle on vit et sont victimes d'une véritable discrimination. Après, ni le compte Facebook ni le compte Instagram de Télérama n'ont été censurés. Nous, on a tout à fait pu poster cette image de une donc pour les auditeurs qui montrent donc cette femme, cette artiste DJ Leslie Barbara Butch nue.
Mais non, en fait, elle est pas nue. Elle est nue.
Profil.
Elle est de profil et elle cache sa poitrine. Donc en fait, il y a même pas d'élément de nudité.
Exactement.
C'est comme si le fait qu'il y ait beaucoup de chair dérange de toute façon les réseaux.
Exactement.
Et son profil à elle a été supprimé.
Absolument. Elle a posté cette photo, ça a été censuré et son compte a été suspendu pendant 24 heures. Et je pense par rapport à ce que disait votre invité,
Félix Tréguer.
C'est qu'effectivement, c'est un contrôle social et automatisé d'Instagram qui est assez inquiétant parce que c'est une image qui est tout à fait respectueuse, qui n'enfreint aucune loi. Et le fait même que les réseaux sociaux puissent comme ça censurer une image est quelque chose
d'assez
choquant.
Sans doute, algorithmique. Alors justement, quand on regarde Télérama sur Instagram, on est très étonné puisque Instagram, c'est essentiellement de la photo. Mais là, on découvre, quand on suit Télérama sur Instagram, qu'on lit des textes très longs. C'est presque un peu contre-intuitif. C'est des textes extrêmement longs pour un réseau social qui, a priori, ne s'intéresse pas aux textes.
Et c'est vrai, mais ça, c'est le...
C'est Télérama qui veut toujours être un peu différent.
Exactement. C'est le côté un petit peu décalé de Télérama. Après, il y a des très, très belles photos comme celle de la Une de cette semaine.
Mais avec un photographe dédié, d'ailleurs, enfin un directeur de la photo pour Instagram.
Absolument. C'est une dimension à laquelle Fabienne Pasco, la directrice de la rédaction, est extrêmement sensible. On a un directeur de la photo qui fait un travail remarquable. Et effectivement, c'est le côté un petit peu décalé de Télérama, de mettre beaucoup de textes sur le compte Instagram. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont payantes sur le site de Télérama, mais il y a quand même des choses gratuites sur Instagram.
Alors venons-en à une des questions qui a animé beaucoup tous ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux, à savoir la question de la critique et de la recommandation. C'est l'un des métiers de Télérama, puisque vous l'avez dit, au-delà des programmes télé, on achète aussi Télérama pour lire des critiques qui ont tendance à devenir payantes sur le site, même si l'été reste gratuit. Vous avez fait un peu votre promotion sur ce sujet en expliquant que vous faisiez des recommandations, je dirais, humaines, traditionnelles, presque à la manivelle, alors que les autres le font avec des algorithmes, et vous vous dites sans algorithme.
Absolument. L'idée, c'est dans la sélection effectivement quotidienne que nous proposons, qui répond à la question « On regarde quoi ce soir ?», c'est de se dire il y a des personnes, il y a une rédaction à Télérama qui a fait des choix, qui vous recommande des choses et qui justement ne fera pas de sélection algorithmique puisque c'est pas parce que vous avez un jour regardé une série policière que vous avez envie de regarder tous les soirs une série policière, mais peut-être vous aurez envie de regarder un documentaire, une vidéo sur YouTube, un film sur Netflix. Et effectivement, c'est le choix choix de la rédaction que de faire cette recommandation, effectivement, pour l'instant, sur tout l'univers audiovisuel, que ce soit les films, les séries, les documentaires, et aussi, d'ailleurs, je le dis, sur un certain nombre de sujets. Zoé Svez parlait de sortir, donc on recommande aussi des expositions, des livres, des podcasts.
Mais alors, si je me trompe pas au début, excusez-moi, mais Télérama Sortir, c'était un des premiers algorithmes de recommandation. Je sais pas, vous étiez pas là à l'époque, mais.
Vous n'étiez pas né, même.
Vous n'étiez pas à Télérama, mais je crois que oui. Quand ça a ouvert, quand vous avez lancé le site au début, il y avait quelque chose de l'ordre de l'algorithme, et puis finalement, ça a changé.
Alors, là, vous faites la moue.
Je ne suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que Télérama Sortir, non, je vois pas. Je pense qu'il y a un moteur de recherche.
Un moteur de recherche, mais
effectivement, et probablement que ce moteur de recherche fonctionne avec des algorithmes qui permettent de donner des résultats d'une recherche, mais en revanche, je vous assure qu'il y a un certain nombre de chroniqueurs.
C'est donc une sorte de coup de communication, on est garanti sans algorithme, mais l'algorithme d'abord, ça dépend comment il est programmé, on pourrait très bien penser qu'il a été programmé chez Télérama pour favoriser plus les indépendants, par exemple, que le mainstream, et puis surtout, est-ce que c'est pas au fond un aveu de ce qu'est Télérama, à savoir une élite un peu top-down, comme on dit, c'est-à-dire qui vient vous dire du haut jusqu'en bas ce que vous devez penser, alors que la personnalisation et l'algorithme, justement, vous permet de vous adapter à des goûts pluriels et en réalité au fait qu'aujourd'hui, ce critique un peu âgé, souvent un peu pompeux, qui vient vous dire voilà ce que vous devez aimer, c'est ce que les gens ne veulent plus.
Alors, je pense que d'abord, tous les critiques de Télérama ne sont pas âgés et pompeux, loin de là. La rédaction est tout à fait diverse. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes.
Mais elle prétend nous dire ce qu'on doit aimer.
Non, parce que d'ailleurs, on l'a fait encore récemment sur le film avec Alain Chabat, des pour et des contre. Donc, assez souvent, quand même, la rédaction de Télérama
est divisée
et est capable de dire un certain nombre sur un film, on aime ou on n'aime pas, d'une part. Et d'autre part, je pense que sur ce que vous dites de l'algorithme est très juste. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des algorithmes qui sont extrêmement utiles et qui vous permettent d'individualiser vos choix, etc. Après, moi, il me semble qu'aujourd'hui, dans la presse, nous, ce qu'on vend, en tout cas, c'est des journalistes engagés et qui ont des convictions. Et pour cela, ils réfléchissent, ils voient des films, ils regardent la société dans laquelle on vit, et ils s'inspirent pas d'algorithmes. Oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'un jour, on introduira des algorithmes de recommandation, mais je crois pas que ce soit ce que viennent chercher les gens à Télérama. C'est-à-dire que s'ils veulent de la recommandation, ils l'auront sur Netflix, ils l'auront sur Spotify, mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'ils viennent chercher quand ils vont sur le site de Télérama.
Emmanuel Paquette, dont la question est garantie sans algorithme.
Oui, encore que. On a vu ces derniers mois, ces dernières années, des scandales dans le monde de la culture un peu exploser un peu partout. Il y a eu l'affaire Weinstein aux États-Unis, il y a eu des affaires Luc Besson, plusieurs affaires Luc Besson. Il y a eu l'affaire Enel, dont on parlait un peu au début de l'émission. Il y a eu aussi maintenant le rebondissement avec l'affaire Polanski, enfin les affaires Polanski. Et à chaque fois, pour moi, ça n'est pas dans Télérama, mais à l'extérieur de Télérama, sur Mediapart, sur d'autres médias. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'investigation en tant que telle dans le monde de la culture au sein de Télérama? Est-ce que c'est un choix? Ou est-ce que c'est quelque chose? Vous êtes à passer au travers de grandes affaires comme ça. Est-ce que c'est plutôt subi ou voulu?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une équipe de reporters à Télérama, mais qu'il n'y a pas cette culture à Télérama de recherche du scoop, ça c'est vrai.
Ni de l'investigation.
Et de l'investigation, puisqu'effectivement, c'est un journal qui fait la culture, qui traite la culture, qui investigue. Néanmoins, on a sorti un papier, notamment sur le sexisme dans la musique ou sur le sexisme à Radio France, d'ailleurs, avec des journalistes de Télérama qui ont enquêté. Donc, sur ces sujets-là, Télérama a pris la parole et continuera à prendre la parole. On n'a pas sorti de scoop et Adèle Haenel a préféré parler à Mediapart plutôt qu'à Télérama.
Peu d'enquêtes aussi sur les industries culturelles, alors qu'on pourrait s'attendre à avoir à Télérama constamment un papier chaque semaine sur l'industrie.
Sur l'avenir du cinéma, j'ai l'impression que c'est quand même un secteur qu'on
vous
couvre quand même chaque semaine, sur la musique aussi.
Après, il y a un regard qui est très critique, enfin, tourné vers la critique et la recommandation, plus que sur l'analyse des secteurs.
C'est vrai, mais parce que c'est un journal, effectivement, qui fait de la recommandation, qui est un guide. C'est effectivement, c'est un guide, c'est pas un journal qui fera de l'investigation de façon naturelle, mais néanmoins sur ces sujets que vous évoquez, et effectivement sur toute l'évolution de la société et le fait que la société ne tolère plus un certain nombre de choses, Télérama a pris sa part d'abord en parlant dans ses colonnes,
et puis en faisant un travail. Je crois qu'on peut quand même parler du fait que dans la rédaction de Télérama, il y a eu quelques cas, il y a eu des problématiques, et vous avez eu deux cas complexes, et pour le coup, alors on sait, je crois que et le groupe Le Monde, tout le monde, il y a eu quoi comme problématique sur la manière dont on pense à ces questions-là dans votre groupe? Que s'est-il passé?
Alors, le groupe Le Monde, bien avant mon arrivée d'ailleurs, avait lancé toute une politique sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d'une part, et puis aussi toute une politique de prévention sur le harcèlement sexuel. Moi, quand je suis arrivée à Télérama, j'ai eu un signalement d'un cas assez inquiétant de femmes qui ont subi des agissements sexistes, voire du harcèlement sexuel. Du coup, j'ai effectivement diligenté une enquête qui m'a conduit effectivement à licencier deux journalistes de Télérama. Je pense que si on a pris ces décisions, c'est que l'enquête a révélé des faits graves. Il y avait beaucoup de victimes au sein de la rédaction, donc on a pris les décisions qui s'imposaient.
Un des sujets de Télérama, c'est évidemment la télé. Quel regard vous portez sur l'avenir de la télé? Que va devenir, selon vous, la télé?
Alors, c'est une question intéressante parce que d'un côté, on n'arrête pas de dire c'est la fin de la télé. D'ailleurs, un petit peu comme on a pu dire il y a 10 ans, c'est la fin de la radio, c'est la fin des journaux. Hein. Enfin, tout ça s'arrête. Il y a encore 40 millions de Français qui regardent la télé chaque jour. C'est vrai que l'audience, la durée d'écoute de la télé a diminué de 6 minutes cette année. Tout le monde a dit oulala, c'est très grave, 6 minutes. On est encore à plus de 3h40 quand on était avant la TNT à 3 heures par jour. Donc la télé se porte bien. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on en a beaucoup parlé déjà. Il y a des usages qui évoluent avec de nouveaux acteurs et les plateformes. Et ce qui aussi mérite une attention particulière, c'est le comportement des jeunes. C'est qu'effectivement...
Qu'ils soient regardent la télé dans leur chambre et non plus en commun dans la famille, avec aussi des fortes audiences sur le live, le sport, etc.
Exactement. Enfin, il y a deux choses sur les jeunes. C'est que d'abord, ils regardent beaucoup moins la télé linéaire. Donc effectivement, ils regardent YouTube, ils regardent des plateformes, ils regardent beaucoup plus Internet.
Le replay aussi.
Ouais. Le replay, d'une part. Et du coup, ce qui pose question quand même sur le média télé en général. Et d'autre part, et vous le disiez, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment le signe de notre société qui évolue. C'est qu'avant, on savait ce que nos enfants regardaient à la télé. Aujourd'hui, on ne sait plus. Et effectivement, avec deux conséquences. D'une part, la télé n'est plus un moment familial. Donc, la question, c'est à quel moment on recrée finalement un collectif autour d'un programme télé, autour du sport. Ça se produit encore, mais autour de films ou de séries. C'est un peu plus difficile d'une part, et puis d'autre part, après, on sait tous les effets désastreux que peuvent avoir les écrans sur les enfants, et du coup, il faut y être très attentif.
Sujet que vous avez traité régulièrement dans Télérama. On parle aussi de social TV, c'est-à-dire au fond, ces applications, il y en a un certain nombre, dont certaines ont échoué. Je pense à Buddy TV, je pense à Social TV Rating, Yap.tv, Social Guide, Fav.tv. Ce sont des applications qui, au fond, fournissent des recommandations TV sur smartphone et qui sont personnalisés en fonction de ce que vous avez commencé à regarder, ce que vous avez continué à regarder, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle là pour Télérama d'avoir cette application-là un peu moderne sur des modèles de type américain qui ont pour certains échoué mais pour d'autres se portent assez bien?
Je pense qu'effectivement, les OSFES le disaient, on a une offre vidéo qui est très riche avec un compte YouTube auquel je vous recommande tous de vous abonner.
Vous avez 32 000 abonnés, c'est à la fois pas mal parce que vous n'êtes pas si... Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que c'est difficile pour vous de promouvoir la vidéo sur Télérama. Vous avez des super bons contenus.
Oui, on a des très 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 bons contenus. On est justement en train d'y réfléchir et je pense qu'on va faire de plus en plus sur la vidéo. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est aussi l'occasion sur YouTube de faire en sorte que nos lecteurs découvrent, ils rentrent par une entrée, par la musique.
Et puis aussi qu'ils commentent. C'est-à-dire que Social TV, absolument, ça veut dire chacun commente ce qu'il est en train de voir et donc ça recrée justement cet esprit de communauté, absolument, en discussion, commun, de discussion qui parfois manque sur la télé.
Absolument. On a d'ailleurs aussi un site qui s'appelle Vodcaster qui a été racheté par Télérama, qui est un site très communautaire sur le cinéma et qui répond exactement à cette question-là autour du cinéma, c'est qui permet à des internautes de donner leur avis sur le cinéma. Il y a énormément de commentaires sur Vodcaster, qui est un site qui fonctionne très bien.
Emmanuel Paquette.
Oui, il y a eu une grande vague d'augmentation de prix des abonnements. Vous êtes passé de 69 à 99 euros. C'était quand même assez important. Alors, je ne sais pas si cette vague d'abonnement est terminée, parce que j'ai l'impression que c'était par vagues successives que des abonnés ont été touchés, parce que j'en connais certains qui n'étaient pas très contents. Donc, je me fais un peu leur relais là pour le coup, parce qu'ils n'ont pas vu de contrepartie à cette hausse de prix en plus. Donc,
alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2016, donc ça date quand même un petit peu, mais les abonnés de Télérama ont en général la mémoire oui, vivace des augmentations de tarifs. En 2016, le tarif de recrutement d'abonnés est passé de 69 à 99 euros et effectivement par rapport à d'autres titres de presse où votre abonnement en fait augmente d'année en année, finalement nous on a dit bon, on augmente d'un bon coup et on place l'abonnement à 99 euros. On réfléchit toujours. L'abonnement numérique est beaucoup moins cher puisqu'il est 1 euro le premier mois et 6,90 les suivants. Et j'ai oublié ce que c'était la question exactement.
Non, c'était sur la vague en fait d'abonnés qui effectivement. Ce que j'ai cru comprendre, ça s'était terminé maintenant ou il n'y a pas longtemps.
Oui, ça s'est terminé tout à fait il n'y a pas longtemps. Après, ce qu'on peut dire, c'est que nos abonnés, quand on a fait cette augmentation de tarif, avaient accès à la fois à l'offre papier et à l'offre numérique qui avait justifié cette augmentation de tarif.
Donc ils sont dans les 10 000 dont vous donnez.
Non. Ceux-là, sur les 420 000 abonnés de Télérama, il y en a plus de la moitié qui utilisent Télérama.fr.
Bien, on va vous laisser après l'émission vous bagarrer sur les chiffres. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment Catherine Sueur, présidente du directoire de Télérama, d'avoir été notre invitée ce soir pour les plus loin sur ce dont on a parlé, articles, livres et références, les musiques aussi qu'on a diffusées et bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, émission Soft Power. Vous pouvez vous abonner au podcast de cette émission sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. La semaine prochaine dans Soft Power, nous consacrons notre émission à la politique culturelle avant les municipales. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, magazine L'Archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que la géographe Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, sera l'invitée des matins de France Culture, donc demain à ne pas rater. Merci Catherine Sueur.
Merci beaucoup.
Et bientôt, en attendant de vous revoir, en attendant de vous dire au revoir, Zoé Sfez, Emmanuel Paquette.
Au revoir.
Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.